Ernest Daudet, Mon frère et moi. Chapitre 1. Le nom de Daudet est assez répandu dans le Languedoc. Quelques-unes des familles qui le portent en ont supprimé la dernière lettre, Daudet d'Alzon, Daudet de la Valette, Daudet de la Barthe. On le trouve fréquemment dans la Lozère, à Mende et à Marvejols, sous sa double orthographe. Au XVIIIe siècle, un graveur, un critique d'art, un ingénieur, deux théologiens protestants le firent reconnaître. Un chevalier Daudet écrivit et fit imprimer la relation d'un voyage de Louis XV à Strasbourg. Ces Daudet ou Daudet, tous originaires des Cévennes, ont-ils eu un berceau commun? On peut le supposer. Ce qui est plus certain, c'est que la branche de laquelle nous sommes issus, Alphonse et moi, a poussé dans un petit village nommé Concoule, à quelques lieues de Villefort, dans la Lozère, au point où ce département se réunit à ceux de l'Ardèche et du Gard. Au commencement de la Révolution, notre grand-père, simple paysan à l'esprit plus ouvert que cultivé, était descendu de ces montagnes sauvages avec son frère pour se fixer à Nîmes et y exercer la profession de taffetassier, tisseur de soie. Il s'appelait Jacques, son frère Claude. Royaliste exalté, Claude périt massacré en 1790 pendant les sanglantes journées de la bagarre. Peu s'en fallut que Jacques aussi trouva la mort dans des conditions non moins tragiques. C'était en pleine terreur. L'échafaud restait en permanence sur l'esplanade de Nîmes. On y fit monter en un seul jour 30 habitants de Beaucaire, prévenus de complicité avec les conspirateurs royalistes du Vivarais, artisans pour la plupart, car il est à remarquer que dans le Midi, c'est parmi le peuple que les Jacobins semblaient recruter de préférence leurs victimes. Ces malheureux allèrent au supplice en chantant le Miserere. Arrivé depuis peu de ces montagnes, Jacques Daudet se trouva sur leur passage. Son âme s'ouvrit à la pitié, ses yeux s'emplirent de larmes. « Ah, les pauvres gens ! Ah, les pauvres gens ! » s'écria-t-il. Il fut aussitôt entouré d'individus appartenant à l'escorte des condamnés qui le maltraitèrent en le poussant dans le lugubre cortège, en le menaçant de l'exécuter sans jugement. Par bonheur, l'un d'eux, moins exalté que les autres, le pressa de fuir et favorisa sa fuite. Notre Cévenol se hâta de disparaître et profita de la leçon, car on ne l'entendit plus jamais manifester ses sentiments dans les rues. Le temps emporta ces sombres années. Sous le consulat, on retrouve Jacques Daudet à la tête d'un important atelier de tissage que les grands fabricants de la ville ne laissaient guère chômer. L'industrie des tissus de soie était alors florissante dans Nîmes. Elle fournissait à la consommation des cravates, des robes, des foulards, ces belles étoffes brochées qui égalaient en perfection les plus fins produits de la fabrique lyonnaise. Elle alimentait dans la ville et dans les communes voisines des centaines de métiers. Elle faisait brillante figure à côté de cette énorme production de tapis, de châles, de lacets qui portait la renommée du commerce nîmois jusque dans l'Orient. Jacques Daudet se lassa bientôt de n'être qu'un ouvrier. Il fonda une maison de vente et ne tarda pas à acquérir une petite fortune. Dans l'intervalle, il s'était marié. De son mariage étaient nés deux fils et trois filles. C'est son quatrième enfant, Vincent, qui fut le père d'Alphonse Daudet et le mien. Un joli homme à 20 ans que ce Vincent, avec sa tête bourbonienne, ses cheveux noirs, son teint rosé, ses yeux à fleur de tête, serrés dans une étroite redingote et cravatée de blanc, comme un magistrat, habitude qu'il conserva toute sa vie. Son instruction n'avait pas dépassé le rudiment du latin, son père l'ayant attelé aux affaires dès l'âge de 16 ans. Mais il avait couru le monde, la Normandie, la Vendée, la Bretagne, en ce temps-là c'était le monde, conduisant lui-même une voiture toute pleine des produits de la maison paternelle, qu'il vendait dans les villes aux grands négociants de ces contrées, voyageant nuit et jour, hiver comme été, deux pistolets dans un petit sac vert pour se défendre contre les malandrins. Ces mœurs commerciales d'une époque qui ne connaissait ni le télégraphe ni les chemins de fer se sont transformées aujourd'hui. Mais elles avaient vite fait de former un homme au contact des difficultés, des aventures, des responsabilités qu'elles engendraient. À 20 ans, donc, Vincent Daudet était un gaillard tout feu tout flamme, prudent, rangé, catholique et royaliste, il n'est pas besoin de le dire, digne en tout des braves gens qu'il avait mis au monde. En outre, tout à fait séduisant, ce qui ne gâte rien.